Le concept, vous mettez ça, vous êtes complètement dans le noir.
Oui.
Donc le bandeau sur les yeux, vous me confirmez que vous ne voyez rien?
Non.
Bah écoutez, on y va. Bonne émission.
Merci.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux. Dans le noir.
Bertrand Bichot. Alexandre Lemierre.
C'est à travers tous les rôles que j'incarne que je deviens ce que je suis. Bien sûr, j'ai un père, une mère et des ancêtres qui m'ont légué leurs histoires et fait de moi ce que je suis, un garçon entre le prolétariat de mes grands-parents et la bourgeoisie militaire paternelle. Mais ce qui me construit depuis toujours, ce qui m'a définitivement sauvé de cet écartèlement, ce sont tous ces textes, ces sons, ces images qui me transpercent le corps. Certains, en marge de leur travail, ont des vies bien remplies et souvent passionnantes. Je n'ai pas, moi, l'impression d'avoir une vie extravagante. Je travaille tout le temps. Je me nourris de toutes ces histoires, avide comme un nourrisson qui dévore le sein de sa mère. Voilà ce que l'on peut lire, page 25, du nouveau livre de notre invité nommé « Un homme sans identité ». Au cinéma, vous l'avez vu derrière la caméra de Claude Sautet, Patrice Lecomte, Claude Pinotto, Patrice Chéreau, Olivia Sayas, Raoul Ruiz, Diane Curis, Michel Deville, Zabou, Paul Verhoeven, entre autres. Au théâtre, il a joué avec les mots d'Harold Pinter, de Molière, de Federico Garcia Lorca, Jean Eustache, Céline, Pagnol, Bernard-Marie Coltès, Shakespeare, Camus, Beckett, Arthur Miller et j'en passe. Mais ce sont ces mots à lui qui vont nous permettre de le découvrir aujourd'hui. Lui qui confie dans son livre « Nous courons tous dans la fiction puisque le réel nous est insupportable » est depuis quelques instants dans une situation inhabituelle. Au parfum d'irréalité, il est dans l'obscurité totale. Et si cette émission n'était qu'une fiction, une sorte de rêve éveillé, un semblant de réalité où en vérité tout est écrit à l'avance, à l'image de ce texte que je suis en train de lire. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui à Charles Berling dans le noir.
Bonjour.
Comment allez-vous, Charles Berling?
Bien, très bien.
Vous confirmez que vous improvisez à partir de maintenant?
Ce n'est
plus écrit?
Ça, c'est sûr, oui.
Vous avez l'air très concentré, vous avez la bouche quasiment collée à la bonnette du micro,
oui.
Les mains à plat sur la table,
oui.
Le corps relativement détendu pour le moment.
Oui.
Ça vous fait quoi d'être dans le noir comme ça?
Non, je trouve ça très agréable. Je trouve ça très agréable, ça concentre sur le son. J'ai senti un peu de mouvement à côté de moi, là, donc je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. Mais sinon, non, ça va très bien.
Vous sortez un livre qui s'appelle Un homme sans identité aux éditions Le Passeur, en photo de couverture. On vous voit sur scène, c'était pour la pièce de Bernard-Marie Coltès dans La solitude des champs de coton, que vous avez mis en scène et interprété. L'histoire d'un dealer et de son client, une histoire de dépendance, où on se rend compte finalement que le plus dépendant de l'autre des deux n'est pas toujours celui qu'on croit. Est-ce que vous êtes dépendant, vous, au quotidien, de qui, de quoi, de votre métier, du public, parfois?
On est dépendant de beaucoup de choses. On est dépendant d'autres êtres humains qui nous entourent. On est dépendant du travail. On est dépendant de la nourriture, de l'air qu'on respire. On dépend de tout.
Et vous rendez les autres dépendants?
Ça dépend. Sûrement, oui, je dois. Bien sûr. On a sa part d'indépendance, j'allais dire. Je sais pas. Oui, mais oui, sûrement.
Avant de se plonger dans le livre, on voit cette photo qui pourrait d'ailleurs être tirée d'un film de Chéreau. C'est assez sombre.
C'est vrai. Très beau, belle photographe de Jean-Louis Fernandez.
Et quand on le feuillette, ce livre, avant de lire le texte, on découvre qu'il y a des dessins de vous, des croquis reproduits en noir et blanc. Et là encore, assez sombre, voire un peu torturé. Ça vous fait rire. Oui. Vous êtes d'accord ou non quand je dis ça?
Oui, tout à fait.
C'est un choix d'aller vers ça pour votre travail graphique ou vous le subissez plus qu'autre chose, cette tonalité sombre?
Non, disons que, bon, alors, pour des besoins éditoriaux, ils sont en noir et blanc. Je dois dire que on n'a pas pu mettre la couleur, quoi.
Donc ça, c'est moins sombre en couleur.
Oui.
Ou alors il y a du rouge peut-être sanglant partout.
Mais en même temps, je trouve que ça va bien avec le livre parce que le livre, le livre, j'ai cherché à comprendre pour moi où se passe l'écrit, et l'écrit c'est ni de la pensée ni de la parole, c'est un peu entre les deux, donc cet entre deux m'amène dans une intimité qui s'est laissé aller même à certaines, au-delà de la mélancolie, même à certains, parfois des mouvements intérieurs un peu désespérés. Mais pas toujours, c'est un mélange en fait, et je l'exprime dans le livre, je veux me sentir libre justement d'avoir des mouvements qui sont pas du tout, qui vont pas forcément dans le même sens, qui sont contradictoires, qui sont paradoxaux.
Vous en parlez beaucoup de ça, des contradictions, de la oui. complémentarité, des inverses, si on peut dire.
Oui, parce que je trouve que quand on fait, par exemple, quand on apprend les métiers de l'art dramatique, d'acteur et tout, je trouve à chaque fois on se rend compte qu'on est c'est beaucoup plus intéressant quand on n'a pas décidé d'aller seulement dans une direction, mais que on se laisse faire par la nature, y compris par sa propre nature évidemment, mais par la nature en général, par les mouvements naturels et qui sont souvent justement contradictoires, mais qu'après dans l'organisation des choses, l'être a besoin de manichéisme. Mais moi donc j'ai voulu, dans cet essai d'écriture, j'ai voulu aller vers dans ces zones-là, quoi. C'est pourquoi je l'annonce au lecteur et après j'essaye de non pas de m'y tenir précisément, mais enfin un peu, quoi, d'aller dans cette direction, c'est-à-dire d'exprimer un peu un chaos.
On va vous proposer la première séquence de l'émission, ça s'appelle l'image du son. On va vous faire écouter un son, et alors que vous êtes dans le noir, Charles Berling, oui. vous allez nous dire ce que vous voyez, peut-être des images liées à un souvenir.
Depuis près de 3000 ans, l'homme cherche l'arche d'alliance, l'arche perdue.
Selon la Bible, l'arche peut raser les montagnes et dévaster des régions entières. Il ne faut pas prendre ces choses à la légère. Nul ne connaît les secrets de l'arche.
Voulez-vous que je vous dise exactement ce qu'est l'arche ? Voulez-vous vraiment le savoir? C'est un émetteur radiophonique, une ligne directe avec Dieu.
Vous avez reconnu le film, j'imagine.
C'est Les Aventuriers de l'Arche Perdue?
Oui.
Ah oui, ça c'est parce que je raconte l'acide qu'on avait pris avec Moshe, oui.
Voilà, il y a 30 ans, vous allez à Paris dans un cinéma connu qui s'appelle l'Arlequin, voir Les Aventuriers de l'Arche Perdue. Vous prenez un acide et là vous racontez le trip et vous écrivez. Tout est alors remis en question puisque rien oui. n'est plus perçu durablement. Et c'est amusant parce que vous faites un parallèle entre la drogue et la fiction. Après, vous écrivez: la fiction s'empare de l'acteur comme une drogue puissante et dérisoire, à même de supplanter tout principe de réalité.
Oui, mais absolument. Ça, c'est d'une part, c'est vrai. C'est vrai, ça fait partie des effets de la drogue ou de la fiction, mais il y a aussi une chose qui se ressemble, c'est que la drogue provoque un changement de point de vue. C'est-à-dire que on se rend compte que percevoir les choses, c'est un point de vue, c'est d'être, de percevoir à un endroit donné par. Et la drogue bouscule cette chose-là. Donc ça permet de comprendre la relativité des points de vue.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque parfois à se perdre complètement dans la fiction, à force d'y vivre?
Totalement, comme dans la drogue, bien entendu, vous l'aurez compris.
Un peu moins dangereux,
non, ça peut être...
Pour la raison.
Dans les deux cas, ça peut être dangereux. D'ailleurs, la fiction peut être très vorace, peut dévorer quelqu'un, peut lui enlever, non pas tout principe de réalité, mais en tout cas le rendre totalement incapable de vivre dans la réalité. Dans le noir.
Charles Berling est aujourd'hui dans le noir sur la première. Un peu de musique tout de suite avec un chanteur dont vous parlez et un titre que vous citez dans votre livre, alors que vous toussez avec beaucoup d'élégance, beaucoup de qualité de jeu. C'est le vieux monsieur qui tousse.
Excusez-moi.
Voici Raphaël avec « Et dans 150 ans ».
Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de ta première ride, des non mauvais choix, de la vie qui nous baisse, de tous ces marchands d'armes, des types qui votent les lois là-bas au gouvernement, de ce monde qui pousse, de ce monde qui crie, du temps qui avance, de la mélancolie, la chaleur des baisers et cette pluie qui coule, et de l'amour blessé et de tout ce qu'on nous roule. Alors souris. Dans 150 ans, on s'en souviendra pas de la vieillesse qui prend, de leurs signes de croix, de l'enfant qui se meurt, des vallées du tiers-monde, du salaud de chasseur qui descend la colombe, de ce que t'étais belle et des rives arrachées, des années sans sommeil, 100 millions d'affamés, des portes qui se referment, de t'avoir vu pleurer, de la cour solennelle qui condamne sans scier. Alors souris. Et dans 150 ans, on n'y pensera même plus à ce qu'on a aimé, à ce qu'on a perdu. Allez, vidons nos bières pour les voleurs des rues. Finir tous dans la terre, mon Dieu, quelle déconvenue. Et regarde ces squelettes, nous regarde de travers, mais ne fais pas la tête, ne leur fais pas la guerre. Il ne restera rien de nous, pas plus que deux. J'en mettrai bien ma main, coupée ou au feu. Alors souris. Et dans 150 ans, mon amour, toi et moi, on sera doucement dansant, deux oiseaux sur la croix. Dans ce bal déclassé, encore je vois large. Peut-être qu'on sera repassé dans un très prochain naufrage. Mais y a rien d'autre à dire, et veux rien te faire croire. Mon amour, j'aurai le mal de toi. Mais y a rien d'autre à dire, je veux rien te faire croire. Mon amour, j'aurai le mal de toi. Mais que veux-tu?
Bonjour, c'est Charles Berling et je suis dans le noir.
Dans le noir.
Je chante cette chanson et si tu ne m'aimes plus.
Je chante cette chanson et si tu ne m'aimes plus.
Dans le noir, dans le noir.
Charles Berling aujourd'hui est dans le noir, comédien, jeune chanteur aussi, on vient d'écouter quelques secondes, c'était en 2012 votre album. Et puis écrivain, ça vient de sortir aux éditions Le Passeur, Un homme sans identité, dans lequel vous écrivez « Voilà bien la chance des acteurs que de n'avoir pas à choisir mais d'être choisi. Et voilà aussi leur douleur, attendre, attendre d'être choisi. Combien de ces intermittents qui se retrouvent seuls devant leur messagerie ? Je ne m'y suis jamais résolu. Il me faut prendre la parole et agir en mon nom au risque parfois d'être incompris. » Vous avez échappé, vous, à cette douleur ? Vous êtes organisé pour un...
Non, je n'y ai pas échappé, mais ça, quand ça m'est... Non, parce que ça... ça... Mais en, disons, d'un point de vue, dans une dimension plus large du temps, quoi, quand ça m'est arrivé, j'ai réagi. Mais non, je la connais. Bien sûr, c'est-à-dire ce moment où personne ne fait plus attention à vous et où on vous propose rien. Mais il est vrai que depuis très jeune, j'étais habitué aussi à monter mes propres projets. Mais parfois, j'avais ni projet que je voulais faire moi et ni personne qui m'appelait. Et c'est très, très, très douloureux. C'est un peu comme le problème des chômeurs. C'est-à-dire à ce moment-là, on est très vite mis sur la touche, au banc de la société. C'est une sensation, c'est un sentiment étrange. Et puis le problème, c'est que c'est un sentiment qui vous empêche même de profiter des autres à ce moment-là. Ça vous rend inapte à écouter, c'est difficile.
Ça paralyse.
Oui, ça paralyse, ça. Ça crée un rapport à ce que vous voyez. Par exemple, si vous êtes acteur, vous allez voir d'autres acteurs jouer, d'autres spectacles. Bon, mais même si vous y prenez plaisir, même si vous trouvez ça bien, il y a quelque chose. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le point de vue. C'est-à-dire, de votre point de vue, vous n'arrivez pas à en faire de la joie, quoi. À le partager. Parce que vous pouvez rien donner.
Vous écrivez, ce qui me fait courir, c'est que chaque fois, je me dis que demain, je serai bon.
Oui.
Je serai intouchable, crédible, indiscutable. On a l'impression que vous êtes constamment dans une course effrénée avec un objectif volatile que vous n'atteindrez peut-être jamais.
Bah sûrement, ça c'est sûr, mais ça c'est la vie en général. Mais c'est vrai que j'ai toujours le sentiment quand je finis un rôle que je peux encore, que je, la prochaine fois je ferai mieux. Mais bon,
mais
c'est pas totalement vrai.
Parce que
ça, il y a ça au théâtre. Alors au théâtre, il y a des cycles, il y a des représentations plus ou moins réussies, il y a des représentations extrêmement bien réussies, il y a des moments où vraiment, c'est pour ça que je peux dire ces mots indiscutables, intouchables, c'est-à-dire où on se sent, moi à ce moment-là, quoi que on vous dise, quoi qu'on pense, vous savez que vous étiez juste par rapport à vous-même, que vous étiez exactement à l'endroit où vous aviez envie d'être. Ça. Mais c'est d'une nature volatile, c'est un mouvement, donc vous pouvez l'attraper, mais il repart, quoi. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est constamment, c'est-à-dire rien n'est jamais acquis. Et l'art dramatique est vraiment un métier du mouvement, un métier volatile, quelque chose qui ne s'attrape pas, c'est pas un lingot d'or comme ça qui est posé dans un coffre et qui bouge plus. C'est pas du tout ça. C'est comment attraper le train, c'est comment se mettre dans le mouvement et ce mouvement, et à un moment donné, il est en harmonie parfaite, il se déroule très bien et puis il finit toujours par sortir un peu de ce fil comme ça magnifique et puis ça recommence à se compliquer jusqu'à ce que vous retrouviez une harmonie.
Vous êtes dans le noir, on va en profiter au cours de l'émission pour tester vos sens, Charles Berling. Et là, vous relevez la tête.
Oui, je fais comme les ours, parce que Berling, ça veut dire petit ours. Ah. Et je me souviens, quand j'avais été dans le Wyoming, on avait dans une réserve d'ours, on voyait les ours et qui faisaient comme ça.
Ils lèvent leurs truffes.
Bah, je me suis dit que là...
Alors, ce sera tout à l'heure, l'odorat.
L'olfactive.
Ouais. Là, c'est le toucher. Je viens de poser devant vous. Hop, je touche votre main avec un objet. Je vais vous laisser le prendre et nous dire ce que vous pensez que c'est. Alors dites-nous un peu, c'est dur, c'est mou, ça a quelle forme? Vous y allez doucement, c'est pas dangereux.
Dans votre émission, il y avait eu un chat, alors là...
Oui, un jour, oui. Là, non,
si
ce n'est pas
un
vivant.
Un chat, alors c'est horrible, parce que là, les chats...
Ah oui, c'était pour Philippe Guilluc, oui. Toucher un chat qui avait reconnu. Alors,
donc c'est un objet... Ah, c'est un caouet.
Ah, bah bravo. Oui. Je dis bravo parce que c'est quand même assez rapide. Il est enfermé, enfin c'est un coupe-vent, d'ailleurs c'est pas la marque caouet, mais...
Ouais, caouet, on n'a pas... Enfin,
mais si, on aurait pu, mais c'est pas le vrai caouet avec la petite ceinture qu'on accroche à l'époque.
Je connaissais l'héritière des caouets, d'ailleurs.
C'est l'enveloppe, et à l'intérieur, il y a donc un coupe-vent, c'est un petit clin d'œil, votre passion pour le bateau.
Ah oui, tout à fait.
Que vous continuez à avoir cette passion et à...
Ah totalement.
À vivre. Vous auriez pu être marin, vous l'avez dit un jour en interview.
Ah oui, moi j'ai une passion totale pour la mer et pour les bateaux, j'ai la chance d'avoir un bateau. Je m'en occupe parce que c'est un rapport absolument fantastique à la nature, à soi-même, à l'infini, à la violence du monde et à sa douceur.
Vous y travaillez, on peut y travailler sur le bateau. Il y a des liens entre
alors,
le théâtre.
C'est-à-dire que oui, j'y travaille. Longtemps, ça a été très incompatible. L'art dramatique qui est un art extrêmement terrien, je dirais même, c'est un art enfermé. Ça se fait dans des salles. On peut jouer en plein air, bien sûr. J'ai joué en plein air, mais c'est quand même le théâtre, c'est un art urbain, je dirais. Enfin, même s'il y a des festivals à l'extérieur. C'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais enfin, quand même, c'est très terrien. Voilà, c'est sur la terre. Et puis, être marin, c'est pour moi très longtemps, c'était pas possible de mélanger dans ma tête, dans mon corps. Quand je fais de la voile, je pars de l'art dramatique, je m'en sépare. Et maintenant, progressivement, ben, par exemple, la solitude des champs de coton, j'étais en croisière et je travaillais le texte avant les répètes sur le bateau, et je m'en souviens. Ça doit aussi donner après une sorte de de goût intérieur, l'endroit où on répète les choses, comment on prépare un texte, c'est ça qui est essentiel. C'est-à-dire c'est le chemin qu'on fait pour arriver jusqu'à la première représentation qui détermine les saveurs, qui détermine les directions que vous prenez. J'en suis certain.
J'aime beaucoup, je trouve que ça nous met dans un endroit où on n'est pas habitué, qu'on n'a pas l'habitude un rapport. Pourtant, on vit beaucoup dans le noir, si on y pense. Mais c'est codifié. C'est on est dans son lit. Tout d'un coup, bon, on admet qu'on a préparé d'être dans le noir. Mais en fait, tous les jours, on connaît le noir. Et quand on est voyant, on oublie. C'est curieux. Donc là, vous me proposez quelque chose au fond que je connais très bien, d'être dans le noir. Mais bon, c'est passionnant.
Dans le noir.
Pour y voir plus clair.
On va vous proposer maintenant un voyage sonore, Charles Berling, à l'intérieur d'une partie de votre carrière.
C'est sous le signe de la course aux étoiles et du voyage dans la Lune que s'est déroulé l'an de grâce 1958.
Je vous ai compris.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Je rencontre régulièrement des réalisateurs, soit des réalisateurs français ou ailleurs, qui travaillent avec des étudiants sortis d'école, et c'est ce qu'ils me disent tous. Ils me disent tous que ce qui est formidable avec les étudiants de l'INSA, c'est de travailler avec rigueur, mais qu'ils peuvent travailler avec peu de moyens, et qu'ils ont un côté, entre guillemets, débrouillard, qui permet de, disons, d'affronter toute une série de situations, et de pouvoir trouver des solutions sans réclamer des moyens, de très grands moyens.
Tous les jours et jusqu'à dimanche prochain, les spectacles éclatent en 6 lieux différents. Blanchisserie Blanche, mise en scène et interprétée par les Mirabelles, raconte la vie de 4 blanchisseuses. C'est cocasse, pathétique et émouvant.
Être ou ne pas être, telle est la question.
Moteur.
Arthur, 3-7, 2e.
Je crois que j'ai trouvé quelque chose.
Alors, Pierrin, cet or vient de chez Stricker, non? Je vous assure que je ne comprends pas.
Monstre, toi qui m'avais dit que tu n'avais rien trouvé, hein?
Quoi, petite canne?
On va se quitter, Jérôme. On va se quitter. Je peux plus vivre comme ça. Tu comprends?
Le César du meilleur film est attribué à Ridicule.
Demain, les enfants chez moi vont mourir. Et ils mourront de ce ridicule qui m'éclabousse aujourd'hui. Vous enviez l'esprit mordant de Monsieur de Voltaire. Le grand homme aurait pleuré, lui. Car il était d'une ridicule sensibilité au malheur humain. Qui sera la prochaine victime?
Je t'aime.
Pardon?
Je t'aime.
Alors, c'est une blague?
Pierre! Il y a eu l'action.
Je pense que le mieux serait que vous m'épousiez.
Vous m'épousez?
Saint-Saëns. Vous remarquerez, Marie Curie, ça rime. Ça.
Voilà, tu remontes comme ça. Hop, maintenant tu repars. Maintenant tu repars encore, tu remontes, tu reviens jusqu'à la braguette.
Voilà, tu donnes un coup de vapeur. Ça te redonne du volume.
Allô?
Ah, Sophie, tu es là. Je suis content de te trouver.
Ah, Martin, ça fait longtemps. Comment vas-tu?
Pas bien du tout.
C'est vrai, t'as pas...
Cécilia me trompe.
J'ai 70 ans, voilà, et je suis fatigué. Je suis en train de fermer boutique, là.
C'est étrange d'avoir été un homme dont on ne se souvient plus. Ça arrive 2 ou 3 fois dans une vie. Je veux divorcer. C'est inévitable. Je vous dirai que je renonce aussi à mes fonctions de pasteur.
Charles, c'est l'intelligence, c'est la culture, c'est le charme, c'est la générosité, et c'est mon pied dans sa gueule.
Tu peux quand même me dire bonjour. Je suis vexé.
Serge, mon frère. Isabella, une amie.
Viens t'asseoir là, près de moi, qu'on parle un peu.
Marchez dehors, à cette heure et en ce lieu, c'est que vous désirez quelque chose que vous n'avez pas.
Cette chose, moi, je peux vous la fournir.
Cathy, il s'incline devant tes papiers.
Papiers?
Eh oui, s'il se marie avec toi, il a le droit d'être un citoyen américain. C'est ça son petit jeu. T'as compris ce que je te dis?
Charles Berling.
Eh bien, l'enfant s'appellera Charles, puisque c'est Charles Berling qui emporte le Molière du comédien pour son rôle dans Vue du pont d'Arthur Miller.
Le théâtre doit s'ouvrir aussi aux Noirs, aux Arabes, aux Jaunes, aux femmes, plus qu'il ne le fait.
Comment peux-tu dire devant moi que ces couleurs te touchent?
Parce que c'est la vérité.
La vérité! Ces couleurs te touchent!
Oui, ces couleurs me touchent!
Quand on rentre ici, on a l'impression qu'il y a une espèce de ébullition, de grande vivacité à faire les choses, à inventer.
Le théâtre vit de sa diversité, de ses différences.
Je suis libre! C'est ce que je veux!
1, 2, 3.
Liberté!
Quelques images sont apparues, j'imagine.
Ah oh ouais, c'est merveilleux ces montages. Ça, c'est, y a que la radio qui permet ça. C'est dingue. C'est merveilleux. Vraiment, c'est très étonnant. Oui, c'est beaucoup de sensations. De bon, évidemment, moi je mets chaque fois je repère les trucs. Et c'est dingue.
On a évoqué votre année de naissance, 58. De Gaulle, vous lui devez votre prénom. L'école de théâtre l'INSAS, vous avez étudié, et puis beaucoup de films. Votre première apparition au cinéma, c'était dans Meurtre à domicile. Il y a eu des extraits du film de Lecomte, Ridicule, oui. Love, etc. de Marion Vernoux, Nettoyage à sec, bien sûr, L'ennui, Le Chéreau, Ceux qui m'aiment prendront le train. Il y a eu Les Destinées sentimentales d'Assayas, Cravate Club, avec Edouard Baird, qui disait beaucoup bien de vous. Oui. Et puis du théâtre, avec Art, entre autres, de Yasmina Reza, et puis Romain de Boringer, qui parlait du théâtre libre. Que vous dirigez.
Oui, mais ce qui est beau, c'est en fait ce que j'aime bien. Pour moi, c'est un portrait. Et ce que j'aime bien, et c'est un peu ce que j'ai cherché à faire dans mon livre, d'ailleurs. C'est-à-dire, c'est comment de multiples choses peuvent nous traverser, le corps, l'esprit, qui sont pas forcément fabriquent un chemin, mais qui sont pas forcément. Voyez, vous auriez pu. Enfin, tout d'un coup, j'entendais Drake avec Alain Fromager. Et oui, je l'ai mis en scène. Bon, alors donc dans la réalité du montage, et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que ça évoque des moments où j'étais là, où j'ai participé, où j'ai vécu, mais qui sont pas forcément directement tournés vers moi. Et ça, j'ai trouvé ça formidable.
Merci Alexandre Lemire pour le montage.
Ah oui, bravo. Non, mais c'est bien parce que ça, c'est encore une fois, c'est une vraie liberté sur le montage. On n'est pas, c'est comme à un moment donné, quand on fait un livre comme Un homme sans identité. Bien sûr, j'ai aussi envie de raconter et mon métier, et ma vie, et le rapport d'un acteur et le rapport d'un artiste, disons au sens plus large avec une société. J'avais pas envie de faire une biographie, une chronologie.
Ah oui, ça ressemble pas du tout.
Ça m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que je trouve que littérairement, c'est pas intéressant. C'est pour ça que je parle de ce montage, parce que ce montage, radiophoniquement, il m'intéresse.
Mais il a une subjectivité aussi.
Voilà.
Et c'est comme,
exactement.
Comme votre...
Et de façon très, à des moments très, comme le théâtre Liberté, Liberté avec des gens, je reconnais ces voix, des gens qui sont interviewés, qui parlent du Liberté, on leur demande de parler à ce moment-là de la Liberté, du Liberté. Et ça fait, et ça, c'est énorme, par exemple, ça fait partie de beaucoup de ma vie, mais et c'est surtout pas exhaustif, c'est ça qui est bien.
Il m'est de plus en plus difficile de me voir à l'écran, vous écrivez dans votre livre. Est-ce que, comme vous l'avez fait là, vous écoutez, c'est plus supportable?
Oui, m'écouter, c'est beaucoup plus supportable. Ah oui, ça c'est une... Je m'étais jamais posé la question comme ça. Mais m'écouter, oui, c'est plus supportable. D'ailleurs, Hamlet qu'on a entendu là, eh bien, je ne l'ai pas en image, je l'ai en son. J'ai des bandes sonores du spectacle. Et... Oui, mais ça m'a toujours été insupportable. Je me souviens même la première fois que Patrice Lecomte a fini le montage de Ridicule, il m'a invité à voir le film. Il était extrêmement heureux, quoi. Et moi, je me suis assis pendant une heure et demie. Ça a été une torture. Et à la fin, je sentais que le film était bien, mais je souffrais tellement de me voir que j'ai pas pu lui sauter au cou en lui disant bravo, quoi. J'y arrivais pas. J'étais trop mal.
c'est plutôt bon signe que vous arriviez à vous écouter, parce que les comédiens disent souvent que c'est en s'écoutant qu'on sait si un comédien est juste ou pas.
Ah oui, ça c'est exact. Le son, c'est très très important, absolument, oui.
Vous écrivez « Voilà bien ce qui finit par grignoter l'acteur au fil du temps, ce dégoût de lui-même ». Alors j'étais un peu étonné, je vais peut-être être mauvaise langue, mais parfois quand on est spectateur, on a plutôt l'impression que c'est le contraire, l'amour propre du comédien, voire son égocentrisme qu'il grignote. Je me trompe complètement ?
Ça dépend. Oui, c'est ça. Il y a autant de boulangers que de boulangers, quoi, et d'acteurs que d'acteurs. Je pense que chacun a son trajet avec.
La majorité,
avec
vous
ce
pensez,
métier.
Se
en
grignote.
Plus, moi, je ne me vis pas seulement comme acteur du tout. Donc, je sens quand un acteur est très content de lui sur le plateau. C'est pas ce qui m'intéresse en général le plus, mais bon, après, chacun ses goûts, mais. Je dirais que quand je dis ça dans mon bouquin, c'est aussi le dégoût de soi-même, c'est aussi un rapport, parce que j'en parle d'ailleurs beaucoup dans mon livre, c'est le rapport entre l'unité et le tout, quoi, entre un être et puis l'humanité entière. Et donc je me vis aussi comme en étant un être humain, je me vis comme étant tous les êtres humains, et donc je suis traversé, et en étant acteur, on est amené justement à incarner des personnages de mille natures possibles, y compris des choses qu'on n'aime pas et qu'on n'aime pas de soi, mais qu'on fait ressortir. Donc ce que je veux dire par là, c'est aussi que il y a en moi quelque chose qui me dégoûte, parce que il y a dans l'être humain quelque chose de dégoûtant.
Charles Berling est aujourd'hui dans le noir sur la première. On va écouter David Bowie. Vous le citez dans votre livre Un homme sans identité. Le voici avec The Man Who Sold the World.
Upon the stairs, we spoke of was and when. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
pas?
Mais non, t'as pas pris un gramme, hein? Quelle ligne!
Tu m'as jamais dit ça quand j'étais enceinte.
Mais si, mon amour.
Bah, attends, t'avais pris 25 kilos.
Mais j'ai jamais pris 25 kilos.
Non, mais ça va, t'as presque tout perdu. Hein.
Mais c'était il y a 5 ans.
Dans le noir, Charles Berling avec un clin d'œil au film Le Prénom.
Et à Valérie Benguigui.
L'instant. Comment ça se passe?
Très bien.
Dans le noir.
Très bien.
Tout va bien?
J'aime beaucoup être dans le noir, en fait. J'avais déjà fait une émission où on devait manger. Et là, ça se complique.
Vous disiez que c'est compliqué de manger dans le noir, et pourtant vous allez le faire maintenant.
Ah!
Puisqu'on va tester votre goût. Alors ça va être très simple, c'est juste une petite cuillère que je vous tends. Je la place, voilà, dans votre main. Donc j'ai placé quelque chose qui est tout à fait comestible. C'est du fait maison, j'ai fait ça hier, je vous laisse. Donc vous êtes en train de le porter à votre bouche, vous allez nous dire c'est chaud, c'est froid, sucré, salé, est-ce que vous reconnaissez?
Putain, c'est un turinois.
Ouais, exactement.
Oh la vache! Un turinois, mais ça ouais. C'est...
Première fois que j'en fais, donc...
Ah ouais, bah, il est bien fait.
Ah bah tant mieux, j'ai respecté
très bien
la
fait.
Recette.
Vous avez respecté la recette, ouais, et c'est bon, hein.
Je m'en réjouis. Il paraît que c'est un de vos desserts préférés. En tout cas, votre grand-mère en faisait. Vous
non, ma mère.
Ça. À votre mère, pardon.
Oui, oui. Ah ouais, non, c'est magnifique. C'est du marron et du chocolat.
Voilà, avec
et
du beurre.
Et puis après, on laisse reposer, on met au frigo. Ouais, du beurre, des marrons, du chocolat. Et après, ça durcit au frigo. Ah oui, c'est très bon. Ah, j'aime ça, j'aime beaucoup ça. Non, c'est ma mère qui en faisait de temps en temps. Elle disait, j'ai fait un turinois, alors là, on se précipitait dessus.
Vous cuisinez-vous un peu?
Non, pas du tout. Enfin, non. Je ne le fais que dans de rares occasions, soit quand on est en bateau, par exemple, on se dit, tiens, on va faire telle ou telle chose, ou bien dans des maisons de campagne avec des amis, mais sinon, c'est rare. C'est très rare.
Pas d'envie, pas de plaisir à faire.
J'adore manger, mais je mange beaucoup dehors, au restaurant. Mais voilà, cuisiner, non.
Est-ce que vous faites attention à la manière dont vous vous habillez, Charles Berling? Vous êtes dans le noir depuis 45 minutes quasiment. Vous savez comment vous êtes habillé? Comment vous êtes habillé ce matin?
Oui, bien sûr. J'ai des chaussures bleues. Ouais. En cuir de daim retourné comme ça, là, quelque chose comme ça, un jean bleu. J'ai mis même des chaussettes grises et j'ai un slip rouge dessous.
Ça, après... je ne vois pas d'ici.
Non, on le voit pas. Mais un t-shirt bleu et un petit, une sorte de petit pull comme ça, mais très, pas vraiment grosse laine, quoi.
Avec une fermeture éclair,
Et une capuche. Donc, ah oui, ça je vois très bien. Non, mais c'est important la façon dont on est habillé, parce que c'est la façon dont on se sent. Pas seulement même l'apparence qu'on a vis-à-vis des autres, parce que parfois il y a des habits qu'on aime bien et qui vous donnent, qui vous vont mal, quoi.
Là, du coup, vous
mais
faites.
Que vous sentez bien vous de l'intérieur.
Décontracté là.
Ah oui, aujourd'hui hier j'étais en costume parce que j'ai dû aller à un enterrement le matin. Je me suis dit bon, par respect pour ma vieille tante, je vais mettre un costume. Donc j'ai mis un costume et après j'ai fait toute la journée en costume. J'aime bien, je me souviens quand j'habitais rue Larrey, je voyais passer parfois Jean-Pierre Léo, il était tout le temps en costume et ça me fascinait, je trouvais ça magnifique. Ce type qui même, enfin vous voyez, il allait pas quelque part, il était en costume tout le temps. Je trouvais ça très beau, je trouve ça, même si moi j'ai eu plusieurs périodes très très différentes esthétiquement finalement.
Vous êtes en costume sur la photo de votre livre, dans la pièce.
Oui, c'est la photo costume. Dans la solitude des champs de coton. Et travail, là, costume. En fait, moi, pour moi, dans la solitude, le client qui vient se perdre un peu volontairement dans un quartier malfamé, c'est pour moi, et je voulais en faire un peu, j'ai mis un costume. Il a été un cadre ou un petit bourgeois, banquier ou ce que vous voulez, en tout cas dans le monde du travail. Et puis le type, il a gardé son costume, mais il est un peu à la rue pour moi. Cet homme, pour moi, c'est ce que je lis dans la pièce. Et donc j'ai voulu qu'il soit en costume, mais le costume, il est tout abîmé, tout usé, parce qu'il il passe son temps à dormir dedans, quoi.
Est-ce que vous savez quel est le mot que l'on retrouve le plus dans votre livre, un mot assez inhabituel? Je l'ai compté quasiment une vingtaine de fois, alors que votre livre n'est pas...
Très long.
Très long, il fait 130 pages.
Oui.
Vous avez une idée ou je vous le dis tout de suite?
Non, dites-le moi.
C'est le mot chaos.
Ah oui, bah tout à fait. Bah c'est.
Pourquoi autant de chaos et qu'est-ce que ça signifie pour vous ?
Parce que pour moi, nous vivons dans un. Pour moi, le chaos est le principe même de la nature et de du monde dans lequel je suis. Je trouve que nous sommes dans un grand chaos qui est parfois très rigolo, parfois très désespérant, mais c'est un chaos. C'est quelque chose comme enfin un chaos pour moi. C'est de multiples activités, de multiples énergies qui vont dans tous les sens. Qui sont oui chaotiques pour moi ça fait beaucoup de bruit ça fait voilà c'est le contraire de alors il y a dans ce chaos des lieux harmonieux des gens harmonieux de l'harmonie mais principalement ce que j'ai voulu décrire du monde c'est et puis il y a en moi quelque chose de chaotique que j'ai voulu décrire dans ce livre en tout cas. Parce que un livre, c'est toujours qu'une partie de la vérité. Ça n'est jamais la vérité.
C'est parfois même peut-être du mensonge. Il y a des mensonges dans ce livre.
Beaucoup. J'espère bien sûr, tout à fait. Moi, je crois pas à la vérité pure. Donc, ça veut dire que j'ai été très vite habitué au mensonge. Ça m'a tout de suite intéressé le mensonge. Parce que même à un moment donné, je me souviens quand j'étais jeune, je me disais mais j'ai même pas besoin de mentir. Pourquoi est-ce que je mens? Je me surprenais à mentir sans la nécessité d'avoir à mentir.
Donc c'est le jeu déjà du comédien peut-être qui se profilait.
Oui, tout à fait, absolument. Quand j'avais passé les 3 jours du service militaire, j'étais devant un psychologue, un psychiatre, et puis je me souviens que j'avais besoin de convaincre que j'étais fou, et j'ai cherché à mentir vrai, quoi, c'est-à-dire à lui montrer que j'allais être dangereux. Et j'y suis arrivé parce que, au fond, j'ai compris qu'il fallait s'inspirer de sa propre réalité. Pour bien mentir, il faut surtout pas trop s'éloigner de sa vérité.
Charles Berling est aujourd'hui dans le noir sur la première. De la musique maintenant, vous en parlez dans votre livre. Voici Leonard Cohen avec Bird on the Wire.
Like a bird on the wire. Like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. Liberty. Oh, like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear leaning in her
Bonjour, c'est Charles Berling et je suis dans le noir.
Bertrand Bichot, Alexandre Lemierre, dans le noir.
Dans le noir, dans le noir.
On le voit bien.
Toutes ces mains qui parlent, celles qui sont blessées. Toutes ces mains qui prient,
les sensibles, les invisibles, les yeux.
Mais la main que tu donnes, mais la main que tu donnes, oui, la main que tu donnes.
Juste ces quelques mots pour vous présenter notre asso, qui n'a pas simplement pour but d'offrir un café chaud. Sans toi, et si c'était toi, chacun se passerait bien d'avoir froid. Et contrairement à ce que certains croient, on n'a pas toujours le choix.
Et la main que tu donnes.
Charles Berling est dans le noir, comédien engagé. On vient de l'entendre avec référence à votre parrainage de l'association Sans toi et si ouais. C'était toi, Toulon 83.
Oui. Je trouve ça beau. C'est ces gens qui n'acceptent, enfin qui regardent autour d'eux dans une ville, qui n'acceptent pas forcément la misère des autres. Donc je trouve que c'est important. C'est un peu ce qu'on essaye de faire quand on travaille dans nos théâtres à Toulon. De se dire c'est pas parce que ces gens-là ils vont pas au théâtre, c'est pas parce que qu'il faut pas qu'ils y aillent quoi. C'est-à-dire on a envie de partager cet outil de liberté, cet outil de savoir, de d'émotion qui permet de se libérer. J'aimais beaucoup dans Leonard Cohen dans sa chanson quand il dit j'ai essayé à ma façon d'être libre. C'est ça qu'il faut faire.
Dans le noir.
Pour y voir plus clair.
C'est pour tester votre odorat que je viens de verser dans un verre. Quelque genre, je vous donne le verre comme ça. Je
suis en proximité de vos mains. Alors,
du coup, je laisse porter ce verre à votre nez. Dites-nous si vous sentez de quoi il s'agit.
C'est un alcool.
Ouais.
Ça, c'est du cognac.
Non.
Ouais, putain.
Le caviste va être déçu.
Je sens rien là, je suis enrhumé. Et...
Bon, vous avez le droit de goûter si vous voulez. J'ai lu que votre vin préféré c'était le Château Cheval Blanc.
Oh putain, oui.
Alors forcément, on n'a pas de but.
Non, mais c'est pour ça qu'à l'odeur. Non, mais là, au goût, ouais, je vois bien.
Ouais.
Oh la vache, vous avez trouvé ça?
Je crois que j'ai un peu trop bu ce soir. Que j'ai un peu trop bu, tu sais, parfois.
Donc vous voyez que c'est...
C'est du Château Cheval Blanc. Non, c'est pas ça.
On est très content que vous disiez ça, parce que on a été voir un caviste, on lui a dit voilà, qu'est-ce qui peut ressembler à du Cheval Blanc sans que ça, en restant dans notre budget.
C'est pas du Cheval Blanc.
Non.
Mais c'est un Bordeaux.
Non.
Non, c'est...
C'est un vin du Languedoc.
Il est très bon.
Il paraît. Et il est du coup beaucoup plus raisonnable d'un point de vue tarifaire que le Cheval Blanc.
Oui, il est bon, mais je sais que dans le Languedoc, ils font des vins... Ah, c'est du Languedoc, c'est dingue.
Ça s'appelle Vin de Pays des Coteaux de Murviel. Ça s'appelle Alizé, 2005. Il paraît qu'il est du coup
très bon.
Bah oui, bah, tant mieux.
Il y a combien la bouteille?
13-14, je crois, 13-14.
Oh là, magnifique. Est-ce que c'est... Il faut que j'en commande.
On vous donnera les références tout à l'heure.
Il est très bon.
Bon, entre le Turinois et l'Alizé.
Ah oui,
tout se passe bien.
Très bien.
Vous allez pouvoir recouvrer la vue dans quelques instants. Juste avant, une dernière question avant de passer au questionnaire Ombre et Lumière. Être acteur pour vous, je me suis posé la question tout au long de votre livre, c'est plutôt tenter de découvrir qui vous êtes ou au contraire vous oublier, Charles Berling?
Plutôt m'oublier. Enfin, découvrir les autres, essayer de comprendre ce qui est toujours plein de mystères, quoi. Mais je pense que ça va avec. Je pense que c'est un mouvement totalement combiné, quoi. C'est on peut pas dissocier d'où on vient et ce que l'on est et ce que l'on voit. Parce que c'est par ce que l'on est que l'on voit quelque chose. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure, quand un chômeur ou un acteur qui travaille pas, il est tellement mal qu'il peut plus voir, il peut plus aller vers les autres. Un être humain sur un territoire qui est trop bafoué, ou par exemple un territoire trop touristique, le gars qui habite là, il va se sentir, il va devenir xénophobe. Voyez, il va. Bon, donc pour moi, c'est un équilibre en fait. C'est ça qui compte. Donc extracteur, c'est à la fois bien sûr s'oublier, mais en même temps, grâce au regard qu'on porte sur les autres, sur autrui ou sur ce qui nous entoure, eh bien, c'est être révélé à soi-même. C'est au fond se retrouver tel qu'on n'avait pas imaginé. Comme c'est ça que produit l'art pour moi. Quand je suis devant un tableau qui me bouleverse, j'ai le sentiment d'exister.
Tout de suite, le questionnaire Ombre et Lumière de Dans le Noir pour se quitter.
Dans le Noir.
Charles Berling, la dernière fois que vous avez broyé du noir, c'était quand et pourquoi ?
C'était en fermant la poubelle tout à l'heure, le sac en plastique, et de voir à quel point il y avait des tas d'étuis totalement inutiles. Ça m'a fait un sentiment. J'ai broyé du noir.
L'idée la plus lumineuse que vous ayez eue au cours de votre vie ?
C'est de m'autoriser à mettre en scène, à écrire, à faire autre chose que l'acteur.
Comment vivez-vous avec votre part d'ombre ?
Bien, très bien.
Que vous apporte la lumière des projecteurs ?
Ben, beaucoup de plaisir, de satisfaction et justement d'équilibrer la part d'ombre.
Selon vous, mourir, c'est atteindre la lumière au bout du tunnel ou se retrouver dans le noir à tout jamais ?
C'est ni noir ni blanc, c'est encore autre chose, c'est ailleurs.
Qu'aimez-vous faire le plus dans l'obscurité ?
L'amour.
Et qu'aimez-vous faire le plus en pleine lumière ?
L'amour.
Eh bien, vous allez pouvoir soulever votre...
Et faire l'amour.
Pas forcément, enfin pas immédiatement, parce que je suis seul dans le studio.
J'enlève le...
Ouais. Et après avoir passé une heure dans le noir, vous gardez les yeux fermés. Comment ça s'est passé cette émission dans le noir ?
Très bien, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup. Je trouve que ça arrive. On parlait de point de vue, hop, ça déplace le point de vue. C'est-à-dire que ça nous met dans un endroit où on n'a pas l'habitude de. C'est un rapport. Pourtant, on vit beaucoup dans le noir, si on y pense. Mais c'est codifié. On est dans son lit. Tout d'un coup, bon, on admet qu'on a préparé d'être dans le noir. Mais en fait, tous les jours, on connaît le noir. Et quand on est voyant, on oublie. C'est curieux. Donc là, vous me proposez quelque chose au fond que je connais très bien, d'être dans le noir. Mais c'est passionnant.
Dans le noir.
Pour y voir plus clair.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
D'avoir joué le jeu. Je rappelle que votre livre s'appelle Un homme sans identité, paru aux éditions Le Passeur.
À bientôt. Merci.
Infotrafic RTS.
Une annonce concernant les services de ferroutage. Il faut patienter une demi-heure environ à la gare de chargement de Réalpe dans le canton d'Oury sur la ligne de la Fourca en direction du Valais.
Merci d'avoir écouté Dans le Noir aujourd'hui avec Charles Berling. La réalisation de l'émission était d'Alexandre Lemierre et la programmation musicale de Stéphanie Jovanovic.